Docteur Gospel et Mister Blues, Simon Martin, sur Radio Grand Ciel. Émission spéciale aujourd'hui dans Docteur Gospel et Mister Blues avec notre ami Jacques Le Goff, grand amateur de jazz. Bonjour Jacques.
Bonjour, tu vas bien ?
Oui, et aujourd'hui nous allons évoquer un sujet peu commun dans l'histoire du jazz, c'est le jazz et les femmes. We'll be right back. Alors pour commencer, Jacques Le Goff, pourquoi ce thème ?
Eh bien parce que quand on parle de jazz, on parle essentiellement au niveau des instrumentistes, des hommes, les trois quarts du temps, on
effectivement,
parle
ouais,
que
ouais.
des hommes. Et quand on parle des femmes, ce sont généralement les chanteuses qui sont à l'honneur. Et souvent, on tombe à peu près toujours sur les mêmes noms. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, ou plus près de nous, Diana Krall et Stacey Kent. Mais en fait, si on demandait aux gens, comme ça, de but en blanc, nommez-moi une instrumentiste de jazz, là, je crois qu'il y aurait un grand blanc.
Alors, est-ce que ça veut dire que le monde du jazz est très sexiste ou macho un peu ?
Ben, je pense qu'il a été machiste pendant très longtemps, moins maintenant, mais enfin, on en reparlera tout à l'heure. Je pense que ça a d'abord été une musique d'hommes. Il y avait déjà des femmes dans les débuts du jazz qui participaient aux orchestres. Mais elles étaient souvent cantonnées dans des rôles d'accompagnatrices où, effectivement, il y avait des chanteuses, mais des instrumentistes, il y en a toujours eu, mais en nombre beaucoup moins important. Et les orchestres étaient résolument, je dirais, pas trop portés sur le fait de voir des femmes tenir un instrument vedette, par exemple. Et il y avait surtout, dans les années 20-30, des pianistes, parce qu'elles venaient de milieux où on avait appris la musique. C'était souvent des jeunes femmes qui avaient rompu un peu avec leur milieu personnel, parce que les milieux nord-américains de l'establishment noir n'aimaient pas le jazz. C'était une musique un peu de voyous.
Thank you.
Il y a une femme dont il faudrait parler, c'est Lil Hardin, qui était la première femme de Louis Armstrong, qui a joué avec lui chez King Oliver. Et elle,
on est au tout début du jazz.
Voilà,
là.
Vraiment, bah oui, c'est 20-25. Et elle a fait des premiers enregistrements avec lui. Et sans elle, je crois que Armstrong n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait, parce que c'était une personne qui arrivait directement de sa campagne, qui était très, très, bon, très peu éduquée. Et elle l'a éduquée, en fait. Elle l'a polissée, elle lui a appris à se mouvoir dans le monde, elle lui a même fait acheter ses costumes, etc. Et je pense que... Et ils sont toujours restés amis, d'ailleurs, parce qu'ils se sont séparés. Mais Lil Armstrong, je pense qu'elle a eu une grande influence sur son mari. Donc les femmes ont un rôle très important dans le jazz. Et même dans les familles, quand il y avait plusieurs enfants, souvent, quand il y avait un musicien qui était un musicien de jazz... Les autres membres de la famille, les filles, les garçons, bon, aussi faisaient des instruments. Et on a un exemple, c'est Lester Young. Il avait une sœur qui était saxophoniste aussi. Ça, on ne le sait pas.
Ah, ça, on ne le sait pas, effectivement. Ouais. Alors, parmi ces musiciens de jazz, donc, il y avait surtout des pianistes au départ.
Oui.
Cette pianiste de Kansas City.
Voilà, c'est ça. Oui, oui.
Qui jouait du boogie-woogie, des choses comme
ça. Elles étaient essentiellement... Il y avait essentiellement des pianistes. Il y avait d'autres instruments aussi. Il y avait des violonistes, des choses. Mais, les femmes ne tenaient pas un rôle central dans le jazz, parce que les femmes, ça doit élever les enfants, etc. Et les musiciens... Et en plus de ça, il y avait aussi de la concurrence. Quand le marché fonctionnait bien, il y a eu des orchestres de femmes aussi, hein, beaucoup. Hein,
oui, on pense à certains Lem Chaud, alors.
Oui, voilà, exactement. C'est typique de ça. Hein. Il y avait des orchestres de femmes.
Hein, et qui était plus un jazz peut-être bah, commercial ou
variété,
plus hein, variété, voilà.
Variété ouais, jazz, ouais. Mais il y avait déjà des musiciennes qui savaient vraiment bien jouer et qui faisaient du très bon jazz, comme Blanche Calloway. La sœur de Cab Calloway avait un orchestre formidable. Il y avait un orchestre mixte, homme-femme. Mais il y a eu des orchestres femmes. Et quand il y a la crise économique, hein, la crise de 1929, automatiquement, la concurrence devenant très forte, les affaires se réduisant, les femmes étaient éjectées carrément du marché. Quoi.
Et c'est vrai que c'était, surtout au départ, un milieu assez violent. On pense au bah, Kansas City toujours, oui. Les quartiers assez chauds, oui. Ils jouaient dans des bordels,
bah,
dans
oui,
des
voilà.
Peut-être pas très fréquentables à ce niveau-là et assez violents quoi.
Oui oui bien sûr.
Et les gangsters pendant la Prohibition.
Oui, c'est pour ça que les femmes qui osaient faire du jazz étaient quand même un petit peu mises à l'écart dans leur famille et dans leur société. C'était déjà une forme de suffragette en fait. Hein. Elle se manifestait de cette façon. Et dans les années, avant-guerre, avant la guerre 39-45, il y a eu des musiciennes un petit peu en vue, comme Blanche Calloway, mais il y a eu après 45, il y a eu une évolution quand même, un peu, et en particulier, il y a quelques grandes musiciennes comme Marilou Williams, qui est une pianiste, qui faisait l'admiration de Thelonious Monk, de Parker et tout ça. Et elle a apporté énormément au bebop. Et ça, on le sait pas trop parce qu'en fait, dans les festivals, etc., qui est-ce qu'on voyait ?
Bah, toujours les mêmes.
Ces messieurs. Voilà. Et c'est pour ça que je pense aussi à une guitariste qui est vraiment une très très bonne musicienne, qui est Mary Osborne, qui a travaillé avec des orchestres, disons de jazz plus classique, mais qui a fait aussi bebop. Elle était très influencée par Charlie Christian et elle adorait Django Reinhardt. Voilà. Thank you.
Alors, on va remonter un petit peu le temps. C'est vrai que de nos jours, ça s'est quand même démocratisé. Il y a quand même beaucoup plus de femmes dans le jazz, même si elles restent minoritaires. Et certaines qui ont fait vraiment parler d'elles, je pense à R.L. Besson. On y reviendra tout à l'heure pour la présenter plus longuement, mais qui a reçu des prix Django Reinhardt il y a quelques années. Alors aujourd'hui, est-ce que les femmes ont toute leur place dans le jazz ?
Eh bien, on peut dire ça, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais les femmes restent encore très minoritaires. Et dans le travail qu'a fait Mary Buscato dans son livre qui s'appelle « Femmes du jazz, musicalité, féminité, marginalité », elle note que sur la scène du jazz en France, il y a 8% de femmes. Voilà. Et sur l'ensemble de ces femmes, hein, si je prends les 100% de musiciennes, il y a 4% d'instrumentistes. Les restes, ce sont des chanteuses. On ne sort pas de cette espèce de choses là où la femme a un statut un peu déclassé, parce que c'est pas la même chose qu'être un instrumentiste. Je fais une parenthèse, les chanteuses de jazz comme Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan essayaient de trouver un compromis, puisqu'elles chantaient scat, ça se rapprochait des instruments, mais ça reste la voix, hein. Et dans la hiérarchie des dans les têtes, la chanteuse est quand même quelqu'un qui se surajoute à l'orchestre, mais qui n'est pas bon. Et puis celles qui font vraiment des carrières comme Diana Krall, c'est une pianiste aussi, ou Stacey Kent, mais elle ne fait que chanter. Voilà. Donc il est vrai que pour les instrumentistes, ça reste encore un challenge important.
Et comment ça s'explique, ça, alors ?
Eh bien, pour diverses raisons, hein. D'abord, familial. Je pense que dans la famille, si les parents s'intéressent au jazz ou en font, etc., on a déjà une approche beaucoup plus ouverte, hein, parce que c'est une question d'ouverture aussi, hein. On pense même, regarde, dans les orchestres classiques, pendant très longtemps, il y a très peu de femmes, ouais. Hein? Bon, ce n'est que relativement récemment qu'on en voit. Hein? Et alors, en jazz, n'en parlons pas. En particulier, dans le jazz traditionnel, ouais, il n'y a pas de femmes. Hein? Bon, c'est terminé.
Voilà. Alors aujourd'hui, le jazz est quand même beaucoup plus policé.
Oui.
Et ce qui permet aux femmes de faire des choses beaucoup plus sophistiquées et très belles, quoi.
Alors, ouais. ce qui se passe maintenant, c'est que les femmes, elles arrivent à faire leur trou. Hein? Et celles qui émergent réussissent à bien faire leur trou, parce que souvent ce sont des femmes qui ont suivi des études musicales solides, importantes. Deux des quatre dont on parle là, il y en a deux qui ont fait des études supérieures de musique, hein, en particulier je pense à R.L. Besson. Elle sort du Conservatoire National de Musique de Paris, hein. Elle a un prix de jazz, elle a été formée par des pointures du jazz français qui sont dans les grands conservatoires. Hein. Mais par contre, souvent, elles sont en batterie, par exemple, la fille de Maxime Souris, elle s'est formée un peu toute seule. Bon, elle a fait des stages, etc., mais elle s'est formée un peu par elle-même. Hélène Labarrière, c'est pareil, hein. Et Sophie Allour, elle a une formation plus organisée. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que les femmes, pour être là, sur la scène du jazz, il faut qu'elles se battent plus que les hommes. Hein.
Donc rien de nouveau sous le soleil. Le jazz est un peu comme malheureusement beaucoup de secteurs professionnels, voilà. Beaucoup plus difficile pour les femmes d'y accéder, malgré les grands noms qui existent. Je pense aussi à Géraldine Laurent,
des grands noms. Merveilleuse saxophoniste.
Merveilleuse saxophoniste. Ainsi s'achève ce petit tour d'horizon du jazz au féminin. Un grand merci à Jacques Le Goff. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre Lil Hardin Armstrong and Orchestra vous interpréter Royal Garden Blues, Marilou Williams dans un Chicago Boom Blues endiablé, Marilyn Monroe dans son film Some Like It Hot, et le morceau s'intitule I Wanna Be Loved By You, Géraldine Laurent, extrait d'un album Time Out Trio, et le morceau s'intitule Autumn Nocturne. Et enfin, au moment même où je vous parle, Jerry Allen, extrait d'un album qui s'intitule Grand River Crossing, et le morceau s'intitule Tears of a Clown. Très bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de Radio Grand Ciel.